À plus d'un titre, deuxième partie. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi, c'est donc le jour des revues. Nous allons parler d'une jeune revue qui en est à son troisième numéro, la revue Sprezzatura, une revue littéraire. Avec vous, Sandrick Lemaguer, bonjour.
Bonjour.
Et Léo Zingerman.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes tous les deux membres fondateurs du comité de rédaction. Et puis, je signale d'ailleurs que André Chabin ne sera pas avec nous puisqu'il est sous d'autres cieux, toujours en père blanc des revues dans ce monde à convertir. Il anime un séminaire sur les revues plurielles. On le retrouvera la semaine prochaine pour sa chronique. Alors, sprezzatura, le mot fait signe pour définir une éthique et une esthétique de la nonchalance. C'est le sens du mot en italien. Vous l'avez emprunté à Baltasar Castiglione. Et si je vous ai bien lu, cette nonchalance, définie par l'auteur du livre du courtisan comme la posture qui consiste à cacher son art pour donner l'impression que ce que l'on a fait et dit est venu sans peine et presque sans y penser. Ce dandysme de l'esprit, vous lui donnez un sens politique, même lorsque vous parlez, comme dans cette dernière livraison, de la Vierge Marie. Il s'agit d'avancées masquées, en quelque sorte, sous les auspices d'une revue littéraire, dans des écritures tendues et indolentes à la fois, au milieu d'une nébuleuse où se croisent et se répondent, comme des philosophes embarqués, Nietzsche et Maître Eckhart, Guy Debord et Martin Heidegger, le Marquis de Sade et Julien Coupa. Il ne s'agit pas là de votre comité scientifique, mais d'auteurs qui vous accompagnent.
Oui, tout à fait.
Sandrick Lemaguer.
Je voudrais revenir un peu sur le terme de sprezzatura, puisque effectivement, on l'a emprunté à Baltasar Castiglione. C'est une espèce de grâce qu'on peut avoir de cacher toute affectation lorsqu'on va parler de quelque chose qui est extrêmement profond. Ceci dit, en réalité, il existe deux grands types de discours. Il existe un discours qui peut être extrêmement grave et sérieux et un discours qui peut être extrêmement léger. Et je pense que la sprezzatura, c'est le point d'indistinction entre ces deux types de discours.
D'accord.
Voilà, donc il fallait un peu préciser ce point.
Oui, on ne se considère pas du tout comme des courtisans, vous l'avez très bien
Léo Zingerman
fait comprendre. On est parti un petit peu de l'idée que le temps était un champ de bataille et qu'il y avait beaucoup d'œuvres qu'il fallait reconquérir ou reprendre comme si elles venaient d'être écrites. Donc on essaie de publier des choses nouvelles, mais aussi de republier des choses qui sont un peu disparues, qui ont été mal traduites ou qui ont été traduites il y a longtemps.
Oui, voilà. Et qui ne sont plus disponibles.
Parfois.
Ça c'est
souvent, ouais. C'est-à-dire qu'on essaie quand même de revivifier ces textes-là. Mmh. C'est un peu les considérer comme ayant été écrits il y a quelques jours.
Oui.
Quelle est leur actualité et comment est-ce qu'ils ouvrent un espace qui finalement, on va sans doute en parler bientôt, mais comment est-ce qu'ils ouvrent un espace qui est absolument vierge ? Parce qu'on part quand même du constat que l'on est dans le monde du nihilisme et du nihilisme qui s'achève. Et cet achèvement va durer certainement extrêmement longtemps. Et la question se pose aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir vivre dans ce monde-là, avec ces textes-là, et essayer quelque part de sortir de ce monde de la métaphysique. Et on va pouvoir le faire uniquement en revivifiant certains textes, en allant voir dans des traditions qui sont éloignées de notre tradition occidentale, de façon à pouvoir avoir un lieu de pensée qui permette de redécouvrir le monde complètement.
Oui.
Et puis on s'occupe pas seulement de textes, on regarde où on vit, on a des gens qui voyagent beaucoup, qui voyagent sur place, et donc on est autant concerné par les textes récents, anciens, que par les événements. Et tu parlais de nihilisme, Sandrick, mais on est frappé par la dévastation, en fait, on est frappé par la catastrophe. En même temps, on ne veut pas céder à cette fascination très fréquente devant la catastrophe qu'on voit à l'œuvre ces derniers mois notamment. Et on veut écrire aussi toute notre part de joie face à des événements qui ne sont pas forcément très joyeux. On arrive à conserver, on essaie en tout cas, une certaine joie, une certaine nonchalance, vous en parliez, une certaine désinvolture, parce que je pense qu'on ne pourra pas s'en tirer, entre guillemets, si on n'est pas un petit peu détaché. Donc, on veut se détacher.
Concept de la mystique rhénane, très utilisée par Maître Eckhart, qui fait partie donc de cette nébuleuse d'auteurs qui reviennent souvent chez vous. Alors je parlais d'une écriture tendue, on vient de le voir, et nonchalante à la fois. Vous adoptez volontiers un ton prophétique, au meilleur sens du terme, hein, pas...
On a des spécialistes, des prophètes. On a un hébraïsant très efficace qui fait ressurgir des textes assez étonnants.
Sandrick Lemaguer.
Oui, c'est vrai. Je pense qu'on est dans la prophétie en quelque sorte, mais au sens où la prophétie n'est pas quelque chose qui... C'est plutôt la prophétie au sens hébraïque, c'est-à-dire la prophétie, c'est pas l'annonce de quelque chose qui va avoir lieu, mais la prophétie, c'est plutôt une parole qui nous parvient et qui doit faire corps quelque part. Et je pense qu'on a cette volonté-là et cette envie-là de faire s'incarner les choses à travers la parole.
Oui. Alors, justement, on va évoquer quelques-uns des... Vous en êtes à votre troisième numéro, hein, je le disais. La dernière livraison, Virginal Tempo, vous donnez justement un texte, c'est vous qui l'avez traduit, Sandrick Lemaguer, un texte tout à fait intéressant, parce qu'il est écrit justement par un juif de l'époque, c'est l'histoire juive de Jésus. Alors, je rappelle qu'on est effectivement dans un numéro d'allure plus mystique que les autres.
D'ailleurs, plus mystique, en même temps, c'est la manière d'aborder la virginité de différentes manières. C'est-à-dire que dès qu'on parle de virginité dans le monde occidental, on pense à perte de virginité, on pense immédiatement à la question sexuelle. Mais en fait, en allant visiter d'autres traditions, et en particulier, moi, j'ai travaillé sur des textes qui sont les textes du christianisme à travers un prisme de l'hébreu, j'ai écrit un livre qui montre que la notion de virginité n'est pas la virginité au sens classique, au sens où on l'entend, mais est la virginité au sens de l'idolâtrie. C'est-à-dire que la Vierge Marie est vierge parce qu'elle ne va pas avec d'autres maris. Et en hébreu, Marie se dit Baal, mais Baal signifie aussi des idoles. C'est-à-dire que la virginité est un rapport au Dieu d'Israël et est un rapport à l'idolâtrie. Et ce qu'on a voulu un peu parcourir dans son numéro, c'est évidemment la vision catholique de la virginité, mais également de manière sous-jacente, sa vision juive, c'est-à-dire la question de l'idolâtrie et la manière dont cette idolâtrie masque la virginité du monde pour nous.
On est en pleine sémantique, là. Oui.
Exactement. Et donc, ce texte dont vous parliez, qui est l'histoire juive de Jésus, fait partie d'un cycle de textes très, très étrange, parce que c'est un texte ce sont des textes qui ne sont pas revendiqués par les juifs eux-mêmes, et pour cause, puisque ce sont des textes qui sont une espèce de parodie des évangiles. Marie s'est faite violer, Jésus étant en état d'impureté puisqu'elle s'est faite violer et à moitié fou. Enfin, ce sont des aventures. C'est un texte qui est très, très drôle, très enlevé. Je suis très, très content d'avoir traduit pour la première fois ce texte en français.
Le Toledot Yeshu.
Toledot Yeshu, ça veut dire les histoires de Yeshu, qui est Jésus en réalité. Et ces textes-là sont très, très peu traduits. Et pourtant, ce que j'ai voulu montrer, parce que j'en apporte un commentaire également, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ce texte-là n'est pas une simple parodie, au sens où on prendrait les évangiles et on voudrait en faire l'inverse. En fait, ce que je montre, c'est qu'à partir des techniques d'interprétation juive sur la Bible elle-même, les juifs font basculer le texte chrétien sur ses propres bases. Puisque, comme j'avais montré que ses propres bases étaient elles-mêmes hébraïques, ils vont fouiller le texte de la Bible, et à partir du texte de la Bible, ils arrivent à en créer quasiment le texte inverse. C'est-à-dire qu'ils sont très fidèles au texte, ils ne font pas de la parodie au sens potache ou au sens direct.
Vous présentez aussi, Sandrick Lemaguer, les évangiles comme justement une lecture de l'Ancien Testament, mais dans les codes et les canons de la lecture juive, en fait.
Exactement. En fait, le travail que j'ai effectué avant que nous créions cette revue était un travail sur se poser simplement la question de qu'est-ce que sont les évangiles? Ces textes-là, d'où viennent-ils? Comment ont-ils été produits? Et lorsque vous connaissez un peu dans mon cas, j'ai étudié le judaïsme pendant une dizaine d'années. Et lorsqu'on connaît très bien les techniques d'interprétation juive et le texte qui génère du texte, on peut se demander si les évangiles ne sont pas un texte qui est généré de la même manière que dans le judaïsme classique. Et le livre que j'ai écrit montre que Marie, les différentes Maries du Nouveau Testament, sont la Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, qui est diffractée dans ses différentes faces dans un récit qui s'appelle le Nouveau Testament. C'est-à-dire que ça fait écho au fait que le Nouveau Testament n'a pas de valeur historique. Il a une valeur en tant que texte et en tant qu'écrit qui décrit ce qui va se passer quand le Messie arrivera.
Mmh. En fait, c'est une réécriture.
Voilà, c'est une réécriture. On appelle ça un midrash en hébreu.
Voilà, la culture midrashique.
Oui. On appelle ça un midrash et le Nouveau Testament est un midrash. Et moi, je me suis focalisé sur Marie pour montrer d'où elle venait, pourquoi elle faisait telle chose, pourquoi elle disait telle chose. Et j'ai articulé tout ça pour montrer comment ce personnage avait été entièrement bâti à partir de l'Ancien Testament, voilà. Tout simplement.
Alors, on comprend mieux, Cendric Lemaguère, pourquoi vous avez choisi une telle thématique après avoir consacré votre premier numéro à la question des guerres irrégulières, notamment la guerre de guérilla et la question de la stratégie, on y reviendra. Il y a notamment un texte tout à fait intéressant de Jean-Luc Larcher sur Nietzsche. Nietzsche en stratège, noblesse de la guerre, Nietzsche en stratège. Après avoir consacré votre deuxième numéro, donc, aux servitudes abandonnées, avec là un texte tout à fait étonnant dans l'ordre de ce que vous ressortez, justement, comme curiosité un peu oubliée, un texte d'Edward Sexby, qui était membre du complot, qui a tenté d'assassiner Cromwell.
Tout à fait.
Et qui pose la question, lui aussi, de la légitimité du tyrannicide.
Un texte très problématique qui, enfin, nous on a eu une approche très en deux temps en fait. On s'est dit c'est un texte qui est très rare, c'est un texte qui dans la problématique de politique actuelle qui est celle de la validité des démocraties, leur fonctionnement qui dégénère parfois, qui pose problème. Ce texte nous paraissait d'abord important et puis on s'est aperçu très très vite après quelques pages que c'était un texte avec lequel on n'était foncièrement pas d'accord, c'est-à-dire un texte qui finalement ressortit déjà du nihilisme.
Tuer n'est pas assassiner.
Voilà, c'est pourquoi il y a un de nos collaborateurs.
Killing No Murder,
un très 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 beau titre en anglais. Et on s'est senti obligé, l'un de nos collaborateurs s'est senti obligé de produire un texte en réponse beaucoup plus court qui s'appelait Vivre n'est pas assassiner.
Exactement. Mmh.
Alors je finis ma question, donc on comprend mieux donc pourquoi vous vous êtes intéressé à cette question de la virginité dans des coordonnées tout de même aussi très presque classiquement religieuses, hein. À un moment donné, vous au début de ce numéro, vous posez la question en termes qui, à mon avis, pourraient être partagés par un théologien pur sucre. Notamment sur la question de la virginité de Marie. On y reviendra sans doute. Mais je disais ça parce que d'abord, je rappelle, Cendric Lemaguère, que vous avez écrit un livre où vous traitez ces questions, Portrait d'Israël en jeune fille, qui a été publié chez Gallimard dans la collection L'Infini. Et tout ça pour en venir à la question de la manière dont vous choisissez vos thématiques. Vous le faites d'une manière tout à fait transparente. Vous le racontez dans des éditoriaux en forme d'état du lieu ou de situation qui sont au début de chaque livraison et où vous rendez compte justement du débat qui est à l'origine de cette thématique et de la manière aussi, débat sur la manière dont vous allez la traiter. Ça, c'est assez nouveau pour les revues.
On vient d'horizons très très différents. L'effet du texte de Portrait d'Israël en jeune fille de Cendric, sur nous tous, ça a été... on avait déjà exploré beaucoup de choses, chacun de son côté, chacun un peu ses domaines. Mais ce qui nous frappe, c'est la légèreté avec laquelle l'interprétation juive aborde des textes qui sont des textes sacrés. Et en fait, on essaie d'avoir la même légèreté face à d'autres textes qui ne sont pas forcément des textes religieux. Et finalement, cette perspective religieuse ou théologique, nous la doublons dans notre lecture de Guy Debord, de Martin Heidegger. Donc on ne se considère pas du tout comme religieux. En un sens, on l'est quand même. On est aussi politique, on est aussi littéraire. Ce qui nous rejoint plutôt, et ce qui apparaît, je pense, dans ces textes collectifs, qui sont des dialogues, hein, qui sont parfois très très drôles en version originale, on est obligé parfois de les lisser un peu pour les publier. Mais c'est des moments très importants pour nous où on se dit, on vient d'horizons très différents. Qu'est-ce qui nous relie? Et ce qui nous relie presque toujours, c'est une question sur les temporalités. On a l'impression d'être dans un monde en guerre sur des questions de temps. On a toujours moins de temps, ça c'est la remarque qui vient le plus souvent à l'esprit. Pour nous, c'est l'inverse. On a l'impression que l'époque actuelle, paradoxalement, à cause des catastrophes qui s'enchaînent de manière de plus en plus irréversible, est une époque où il faut prendre le temps, où il faut l'habiter, il faut le cultiver. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi beaucoup à Heidegger, parce que Heidegger est quelqu'un qui dit le temps se cultive.
Il y aura une forme de nonchalance finalement dans les lectures que vous faites aussi bien de Heidegger que de Maître Eckhart ou des textes sacrés.
On essaie notamment, dans beaucoup de textes, il y a des traductions de passages de Heidegger qui sont parfois pas encore traduits en français, où on essaie de faire apparaître que Heidegger était finalement un écrivain beaucoup plus lucide politiquement, en tout cas à partir de 1938-39, qui était très conscient des enjeux politiques de la métaphysique, beaucoup plus que ce qu'on veut laisser croire en général dans le milieu culturel français.
Oui, pour revenir un peu sur la structure de la revue, on ne voulait absolument pas faire une revue qui était une revue au fil de l'eau, où on allait présenter des textes qui s'aligneraient avec un certain ordre. Ce qu'on voulait, c'était à chaque fois aborder un thème très particulier sur lequel on n'était pas forcément d'accord, et on allait commencer par un collectif qui allait présenter toutes les trames d'ouverture possibles sur ce numéro. On a commencé par une première forme. Sur le premier numéro, on a fait une transcription du dialogue qu'on avait eu.
Voilà.
Et c'est un exercice qui était peut-être pas complètement satisfaisant.
Ça se passait dans le 15e. Hein,
ça se passait dans le 15e, c'était juste en face de la maison de la radio.
Voilà, c'est ça.
Vu sur la maison de la radio, d'ailleurs.
Et... un jet de lance-pierre de la maison de la radio.
Exactement. En tout cas, ce sont toujours des réunions qui sont très, très joyeuses. Et puis finalement, voilà. on a opté pour, à partir du numéro 2... Pour
Alors là, c'était Paris, Berge de la Seine, le samedi 6 juin 2009, vers 10h du matin, temps doux, couvert, belle humeur générale.
Exactement. Et nous avons opté là pour une synthèse de ce qui avait été énoncé à ce moment-là, ce qui permet aussi de montrer de manière beaucoup plus directe, je pense, les articulations. C'est-à-dire que la particularité de chacun de ces collectifs, c'est-à-dire ces espèces d'éditoriaux, c'est que c'est aussi une figure de la sprezzatura. Il peut y avoir de la pensée qui est très très profonde, mais ça va très vite. Il faut atteindre cette espèce de mur du son qui permet. C'est comme lorsque vous conduisez une voiture. La pensée, c'est un peu pareil. Il faut accélérer dans les virages, sinon vous êtes un peu ballotté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut aller extrêmement vite, ce qui donne, à mon sens, des textes que je trouve de grande qualité et très riches, et dont la richesse n'est d'ailleurs jamais épuisée dans le numéro. Il y a seulement certains aspects de ce collectif qui sont développés. En tout cas, le jour où on n'aura plus ce collectif-là, je pense qu'il faudra arrêter la revue. C'est-à-dire qu'on est en train aussi de dessiner un chemin entre les guerres irrégulières, qui est la manière dont nous, on doit vivre notre propre guerre dans le temps, passer par la servitude, essayer de voir comment la volonté de puissance est en train d'essayer d'écraser tout ce qui nous entoure et comment est-ce qu'on peut trouver un chemin pour en sortir, pour arriver à la virginité, qui est la virginité réelle du monde que l'on peut découvrir une fois que l'on s'est extrait de cette volonté de puissance. Pour l'instant, ça dessine une continuité. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps. On a 6 ou 7 numéros d'avance à peu près maintenant.
Ça durera ce que ça durera.
Voilà, ouais. C'est une aventure.
On va parler de ce numéro sur la virginité avec vous, mais je voulais juste pour évoquer donc ce numéro précédent sur les servitudes abandonnées, citer une très belle phrase qui est connue, mais que vous citez également donc de la Boétie: pour se libérer de la servitude, il suffit de le désirer. Et c'est à méditer.
C'est très très intéressant ce texte dans le collectif d'ailleurs, où cette phrase est citée, puisqu'il est question justement de la servitude volontaire.
Ouais.
Et il suffit de désirer. Et il est dit que c'est un pléonasme, la servitude volontaire, parce que finalement, c'est la volonté qui fait la servitude. c'est la volonté de puissance, justement, qui est en jeu. Et je trouve que c'est la première fois que ce terme de servitude volontaire qu'on utilise tellement aujourd'hui, qu'on peut utiliser en regardant la société du spectacle, c'est un terme qui est tellement galvaudé que là, tout d'un coup, il gagne une richesse extrême.
Voilà. La servitude est très confortable.
Oui, la servitude est très confortable, c'est,
voilà.
C'est sûr.
Et dans cette phrase de la Boétie que vous citez, un mot est évidemment très important, c'est le désir.
Oui.
Alors, vous, dans ce numéro, juste, et puis on passe au numéro suivant, vous citez, justement, ça fait partie de ces textes que vous ressortez, une série de lettres à Mademoiselle de Rousset, du Marquis de Sade, donc en prison. Mademoiselle de Rousset qui dit de Sade qu'il écrit comme un ange, ce qui est vrai.
Je pense que c'est une des plus belles correspondances, la correspondance entre Mademoiselle de Rousset et le Marquis de Sade. Et là, il n'y a pas d'édition complète. C'est-à-dire, soit
donc,
on a le Marquis de Sade.
Ce sont des lettres inédites que vous publiez.
Alors,
qui ne sont plus disponibles.
Exactement, c'est plutôt ça. Ouais. Et on a voulu en faire un choix pour les mettre après en perspective. Mais il est extrêmement dommage que Mademoiselle de Rousset, qui est également, elle, a un style absolument incroyable, il est étonnant que la correspondance entre les deux n'ait jamais été éditée. Parce que c'est vraiment...
On connaît les très belles lettres à sa femme, écrites depuis la prison, à son épouse. Alors, et puis vous, donc, dans ce numéro, Sandric Lemaguère, vous écrivez sur Sade en prison. Vous avez compté qu'il a passé 10 000 journées en prison, ce qui représente en gros la durée d'une peine de perpétuité.
Sade est très intéressant pour ça, puisque c'est quand même celui qui va être emprisonné sous tous les régimes.
Ouais.
Il est sous lettre de cachet pendant l'Ancien Régime. Pendant la Révolution, il risque la guillotine. Il est également en prison. Et puis, après, on lui attribue un écrit contre Marie-Antoinette, qu'il n'a jamais écrit, qui fait qu'il va être emprisonné à Charenton pendant, je ne sais plus exactement, mais une quinzaine d'années.
Ouais.
Et il va toujours demander son procès. Il n'y aura pas de procès. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte que j'essaye un peu de frotter, c'est en quoi la prison a fait que Sade en est sorti par l'écrit. Puisqu'il a commencé réellement à écrire à la Bastille, enfin d'abord à Vincennes, puis à la Bastille. Tous ses écrits ont été écrits dans ce contexte-là. Et ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment il a essayé de briser les murs de sa prison en écrivant finalement les choses les pires qui vont lui valoir de la prison plus tard. C'est-à-dire que sa mauvaise réputation ne date pas de ses écrits, en réalité.
C'est
aussi quelque chose de très, très intéressant chez lui, de savoir ça. C'est comme s'il avait forcé le trait de plus en plus pour montrer l'ignominie de ce qui lui arrive et se rendre absolument inacceptable.
Ce qu'on ne lui pardonnera pas.
Ce qu'on lui pardonnera absolument jamais. Voilà.
Voilà, donc ce dernier numéro, on passe à tout à fait autre chose, encore que, consacré, dernière livraison, le numéro 3 de cette revue Sprezzatura, consacré, alors Virginal Tempo, vous m'avez dit que c'était pour faire entrer là aussi la question du temps dans cette dimension de la virginité. Alors, le texte exhumé, il y a deux choses. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire juive de Jésus. Et puis, il y a aussi un très beau poème de Hölderlin dédié à la Madone. Poème, que vous donnez en tout cas en nouvelle traduction. Je ne sais pas s'il figure dans les œuvres complètes disponibles en français.
Si,
également. Voilà, donc c'est une nouvelle traduction due à Éléonore Marie Espagilière. Et puis, donc, c'est la question de la virginité, mais on va dire sous tous ses aspects.
Oui, ce qui est fascinant.
C'est aussi la page blanche.
Oui, ce qui est fascinant chez Hölderlin, c'est qu'il y a une intuition très forte que, en fait, il n'y a pas de temps. Tout se passe maintenant. Et vous parliez tout à l'heure de prophétie. En fait, Hölderlin est un poète prophétique, mais c'est un poète qui est à la fois très conscient des cycles de l'histoire de l'humanité, d'une alternance de ce qu'il appelle le jour et la nuit, tout simplement, avec une espèce de conscience de tout ce qu'a d'effrayant ce cycle qui fait que les dieux s'éloignant, les hommes perdent leur cap et détruisent tout. Et ce poème est très poignant parce que Hölderlin, c'est quelqu'un qui est capable de mettre sur le même plan Hercule, Jésus. Et en fait, il s'inspire à la fois des Grecs, du christianisme. En un sens, je pense qu'il a une préscience du judaïsme, même s'il n'avait pas du tout accès à cette dimension. Et ce qui est très beau dans ce poème, qui est pas très très long, c'est pas un poème très très long de Hölderlin.
Pas un des plus longs, mais il fait quand même à peu près 6 pages.
Oui, il fait 6 pages, ouais. Mais ce qui est difficile, c'est que, comme toujours avec Hölderlin, on n'est pas sûr de traduire bien. Mmh. Il faudrait, peut-être qu'on le fera une fois, se donner plusieurs traductions possibles. C'est des textes très incandescents qui en fait font apparaître ce qui est pour nous peut-être l'issue, le salut possible hors de la volonté de puissance, qui est de prendre conscience que le temps linéaire qui va de la naissance à la mort n'est pas la seule vision du temps, et en tout cas n'est pas la seule expérience du temps qu'on peut faire.
Alors, Cendric Lemaguer, vous l'avez dit, vous êtes hébraïsant, mais il y a aussi visiblement des hellénistes dans la revue, puisque à propos de la virginité, vous rappelez justement le terme grec qui la désigne dans le Nouveau Testament, parthénos. Et il y a là, à ce sujet, là aussi, une analyse sémantique tout à fait intéressante et lourde de sens et d'ouverture aussi. Vous dites ce parthénos, il est composé d'un préfixe para auprès d'eux et d'un suffixe ten qui signifie le départ, l'éloignement. Et je vous cite, il ne collectivement, hein, parce que là il s'agit justement du débat que vous avez eu. C'était là le 5 décembre 2010 en banlieue parisienne, c'est dans l'édito en forme de débat dont je parlais, oui. Dans une mansarde avec vue sur le jardin intérieur. Soleil et toujours la bonne humeur qui semble contagieuse. Alors, à propos de Parthénos, donc, il y a cette phrase, il ne s'agirait que d'être auprès d'un éloignement, je rappelle le préfixe para auprès d'eux et le suffixe qui désigne l'éloignement, il ne s'agirait que d'être auprès de l'éloignement, ce qui est un paradoxe, bien sûr, dans la tension d'un préfixe et d'un suffixe qui ouvre le néant que dessine leur accord.
Je vous avoue que l'helléniste, en l'occurrence, c'était moi.
C'est toujours vous. Mais, je disais que vous avanciez masqué.
Non, mais je donne une piste, c'est-à-dire que je dis qu'il est toujours possible de faire résonner le grec comme de l'hébreu. C'est-à-dire que je fais un jeu d'étymologie, comme on le ferait dans l'hébreu. Je ne suis pas absolument certain de cette étymologie, je pense qu'elle est juste en réalité. Mais je n'en suis pas absolument certain.
Bon, on va avoir des échos et des réponses d'auditeurs. Je vous les transmettrai.
Mais par contre, je pense que c'est vraiment la définition autour de laquelle on tourne depuis le début. Parce que dans ce collectif, on dit quand même une chose, c'est-à-dire qu'on ne naît pas vierge, on le devient. Ce qui peut sembler également une phrase paradoxale. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à découvrir le monde tel qu'il est. Et ça, on ne naît pas de cette manière-là. Mmh. On est tout de suite envahi par quelque chose qu'on pourrait appeler les idoles, la volonté de puissance.
Oui, il y a tout un processus qui fait que, en fait, les sociétés imposent une lecture du monde, imposent une lecture de l'univers qui est problématique, qui est souvent dévastatrice. Et comme dit Picasso, on met très longtemps à devenir jeune. C'est un peu, on pourrait dire la même chose de la virginité. On met très longtemps à devenir vierge parce qu'il faut se déprendre de ces images étrangères dont parle Maître Eckhart. Il faut déprendre de tout ce qui a été préprogrammé ou esquissé.
Exactement.
C'est en quelque sorte, vous dépliez la phrase que vous avez placée en exergue à ce numéro 3, donc, que vous empruntez donc à Maître Eckhart, c'est le sermon numéro 2. Vierge veut dire rien moins qu'un être humain qui est dépris de toutes images étrangères, aussi dépris qu'il l'était alors qu'il n'était pas.
Je pense que c'est la meilleure définition de la virginité.
Il y a d'ailleurs un texte dans ce numéro. Plus inspiré de Chuang Tzu. Oui. Ce que Cendric a fait vis-à-vis des textes de la littérature judaïque, mm-hmm. on essaie, alors on n'a pas toujours tous les moyens qu'on aimerait avoir, mais on essaie de le faire d'autres traditions. Là, il y a deux de nos amis qui se sont beaucoup occupés de Chuang Tzu. Oui. Dans le prochain numéro, il y aura quelque chose sur
Michel
la littérature védique.
Gorzhevski et Luc Guégan, conversation au bord du vide. Exactement. Alors, j'ai trouvé un truc marrant dans l'ours, c'est que vous affirmez que la rédaction n'accepte aucun manuscrit et qu'ils seront donc systématiquement envoyés avant même lecture. Alors, en l'occurrence, pour le numéro 3, c'est Alain Badiou. L'autre, c'était Michel Onfray. Le prochain, ce sera... Lequel? lequel qui va hériter de vos frigos.
Le premier était Michel Houellebecq. Et donc, nous réfléchissons ardemment à la personne qui recevra les manuscrits.
Merci à tous deux. Merci Cendric Lemaguer. Merci Zingerman. Nous parlions de la revue Sprezzatura, le numéro 3. Bon vent à vous.